France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
C'est pas uniquement parce qu'elle commence à faire tomber des têtes que cette affaire Epstein est devenue un scandale mondial. C'est aussi parce que ces 3 millions de mails, de photos ont dévoilé un monde parallèle auquel vous et moi n'aurons jamais accès. Et c'est tant mieux, un monde parallèle où l'important c'est d'avoir la carte. Et peu importe si le CV de celui qui vous rassemble est fait de condamnation, dans le cas d'espèce pour sollicitation de mineurs à des fins de prostitution, quand même c'est gravissime. Mais ce qui compte d'abord c'est le réseau. Et le reste on veut pas savoir. La seule boussole c'est l'endogamie. Se retrouvent donc des économistes, des intellectuels, des acteurs du monde culturel, de la tech, de la politique, du commerce. Et peu importe, entre eux, ces hommes et ces femmes savent se rendre des services, s'aident à contourner les règles, on se paye des dîners, on se prête des jets, on s'ouvre des portes. La bonne nouvelle, c'est que ce wouzou délirant est en train de voler en éclats. Enfin, on posera en tout cas la question à nos invités. Il vole en éclats de manière cependant aussi désordonnée d'ailleurs qu'il a été révélé. Et la démission de Jack Lang à la fragilisation de Keir Starmer ou jusqu'à la société norvégienne qui elle aussi est en train de tanguer. La mauvaise nouvelle, c'est que tout cet entre-soi, au-dessus des lois et de la morale, donne du fioul à tous ceux qui criaient à l'état profond, au complot ourdi par les ultra-riches, au fantasme sur les liens entre les élites et les réseaux de pédocriminalité. Alors, faut-il tout recommencer, c'est ça? Est-ce que Epstein nous ramène au point zéro? Creuse-t-il encore un peu plus profond dans ce fossé entre le peuple et les élites, tout cela mis entre guillemets? C'est cela que nous allons essayer d'explorer ensemble. Où nous emmène l'affaire Epstein? Comment infuse-t-elle dans la société, la nôtre, celle des États-Unis? Est-ce qu'elle nous emmène quelque part d'ailleurs ou est-ce qu'elle nous entraîne dans des profondeurs, y compris ceux dont les noms sont ciblés mais coupables de rien et qui risquent de se voir construire autour d'eux un récit inarrêtable? Ouvrons cette discussion, c'est le téléphone sonne, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Voici Véronique, bonsoir Véronique, soyez la bienvenue.
Bonsoir Fabienne, merci de m'avoir sélectionnée.
On vous écoute.
Et
hein.
Merci surtout pour vos émissions, qui sont toujours excellentes. Je reprends effectivement vos propos. J'ai eu l'impression qu'on a eu une première vague de scandales, entre guillemets, qui était surtout autour des abus sexuels de ces nombreuses malheureuses jeunes femmes. Et puis maintenant, c'est en train d'évoluer vers plutôt ce déballement de réseau, d'entre-soi, de réseau d'influence, comme vous l'avez souligné. On parle toujours des abus sexuels, mm-hmm. mais on est en train effectivement de soulever le capot de réseaux de ce type. Alors ma réflexion, c'était de me dire, ça va alimenter les complotistes, ok, mais aussi surtout les mouvements anti-système. Et je suis étonnée de ne pas entendre plus les extrêmes se saisir de ces sujets-là et en faire les gorges chaudes. Et je me dis que l'extrême droite est quand même très embêtée par ce sujet parce que c'est très savonneux pour eux du fait de leur relation avec Trump notamment.
Merci beaucoup pour cette entrée en matière. Il y a beaucoup de choses dans les remarques de Véronique. Merci Véronique pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Marie Pelletier est avec nous, bonsoir. J'espère qu'elle est là, Marie Pelletier, historienne. Voilà, historienne spécialiste du complotisme, vous êtes avec nous depuis Bruxelles. Bonsoir Madame Pelletier.
Bonsoir.
Voilà, je vous ai trouvé formidable. Il y a Frédéric Dabi qui est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'IFOP, c'est vous. Et Olivier Burtin, bonsoir.
Bonsoir.
Maître de conférence en civilisation des États-Unis à l'université Picardie, Jules Verne. Je vais d'abord me tourner vers vous, en fait, Marie Pelletier, sur la première partie de la question de notre amie Véronique. On a ouvert un capot, c'est sûr. Alimente les théories complotistes, alimente aussi l'antisystème. Vous diriez que cette affaire alimente quoi, si elle alimente effectivement quelque chose?
Ben, j'entends beaucoup que cette affaire alimente le complotisme et j'ai d'abord toujours envie de dire, ben, manquerait plus que ça. Je veux dire, on a une affaire qui est terriblement scandaleuse, vous l'avez dit en introduction, qui montre quand même des choses extrêmement choquantes en démocratie. En fait, pour un régime démocratique, cette absence de transparence, cet entre-soi, ces gens qui ont beaucoup de pouvoir et d'argent et qui du coup ne s'encombrent d'aucune morale et d'aucun principe légal, on va dire, c'est très scandaleux. J'insiste un peu là-dessus parce que je pense qu'avant d'effectivement faire le constat que ça peut nourrir une vision conspirationniste, et évidemment ça la nourrit, il faut quand même se dire que c'est une histoire qui interroge énormément le fonctionnement démocratique et que si on ne se pose pas ce questionnement-là et qu'on se focalise juste sur la question du complotisme, on risque de passer à côté de l'essentiel.
C'est ça. Vous dites que c'est une histoire qui abîme la démocratie, c'est ça que vous dites, Marie Pelletier, en fait?
Bah totalement. Ça, c'est quand même symptomatique de sérieux dysfonctionnements. Et si on ne regarde pas ces dysfonctionnements et qu'on ne parle que de conspirationnisme, j'ai bien peur qu'on passe à côté du cœur du problème, en effet.
Olivier Burtin, moi j'ai été assez frappée. Notre auditrice nous dit, c'est marrant qu'on ne voit pas les extrêmes, mais chez nous, au fond, comme aux États-Unis quand même, les extrêmes sont à l'intérieur. Donc on pourrait se dire, donc Trump, Bannon, etc. On pourrait se dire, ah bah, ils se sont pris les pieds dans le tapis. Mais on a le sentiment qu'une fois encore, et peut-être que c'est sous le nombre, mais on a le sentiment que ces gens ne se sont pas pris les pieds dans le tapis de l'affaire Epstein, en tout cas au point où nous en sommes, si ?
Non, parce qu'il y a un éternel recommencement, c'est-à-dire que plus les personnalités qui auparavant faisaient partie des marges vraiment de l'extrême droite se rapprochent du centre, entrent au gouvernement, et plus il y a un renouvellement dans ces marges et l'émergence de figures qui tiennent un discours de plus en plus radical. Donc, si vous voulez, il y a très clairement aux États-Unis maintenant une partie de l'électorat Trump qui se nourrit de ces révélations pour le critiquer, même s'il n'y a pas encore eu véritablement de rupture très forte, et pour continue à mettre la pression sur le gouvernement pour la production de la dernière moitié des papiers Epstein.
On se demandait avec Marie Pelletier à l'instant si on alimentait le complotisme. Je me demande, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis par exemple sur les sites de QAnon, etc. depuis les révélations
Alors QAnon a un peu perdu de son ampleur depuis la fin de la pandémie de Covid, etc. Par contre, si vous voulez, on retrouve un peu les mêmes noms, c'est-à-dire que l'une des personnes qui par exemple fait vraiment ses choux gras de l'affaire Epstein, c'est Alex Jones, qui est l'un des conspirateurs en chef aux États-Unis depuis les années 90 et qui se sert justement de cette affaire-là pour engranger de plus en plus de vues, de plus en plus de clients à son propre business qui repose essentiellement sur la diffusion de ses théories.
Vous, Frédéric Dabi, qui avez un œil sur nous, sur notre société, je me demandais la réflexion de Véronique, c'est que visiblement ça ne touche pas en fait ce qu'elle appelle les extrêmes. Je me demandais moi, comment vous aviez le sentiment, vous, qu'elle infusait à l'intérieur de la société, en fait, tout simplement.
En tout cas, elle infuse déjà.
Parce que chez nous, elle arrive par l'affaire Lang, ce qui est quelque chose d'assez connexe, mais en même temps pile dessus.
C'est connexe, mais elle va aussi arriver par le canal américain. N'oublions pas, Fabienne, qu'on est dans un moment où les questions internationales intéressent les Français. Ce qui touche Trump et les États-Unis les passionnent et voire les obsèdent. Il y avait eu une statistique, c'était pas un sondage de vos confrères de West France, qui montrait qu'en unité de bruit médiatique, la plus forte réception en 2025, c'était Donald Trump. Et puis, il y a une enquête très récente qui montre qu'une majorité des Français voient les États-Unis comme une menace, 43% comme un ennemi. Mais c'est vrai qu'il y a le canal Jack Lang, qui a été, j'ai pas peur de le dire, quelqu'un de très populaire auprès des Français parce qu'il a matérialisé une forme de promesse du politique à la culture, à l'éducation. On a eu le sentiment, à tort ou à raison, mais c'était le regard des Français qu'il avait changé la vie. Mais j'entends ce qu'a dit Véronique, les conséquences sont dévastatrices. Pour qui sonne le glas ? Il va sonner sans doute pour tout le monde, parce qu'il y a un effet de souffle dans un contexte très particulier, d'éclipse du politique, de crise du politique, et ce que reflète cette affaire, c'est un double sentiment chez les Français, l'impunité. Quand on a des moyens, quand on a du réseau, on peut faire n'importe quoi, on peut ne pas payer.
Chez les Français, pas seulement, si vous posez la question en ce moment à un Norvégien, à un Britannique,
oui,
vous répondra exactement la même chose.
Oui,
c'est ça qui est intéressant,
c'est
d'ailleurs, par ailleurs.
On a une opinion publique
ou un Américain.
Européenne et mondiale, et puis une forme de déconnexion. N'oublions pas que la critique que font les Français aux élus nationaux, mais d'entre eux c'est Emmanuel Macron, c'est « vous ne connaissez pas nos vies, vous ne nous écoutez pas, vous ne nous comprenez pas ». Avec ça, il y a un véritable carburant. Bah oui, ils sont tellement déconnectés parce qu'ils sont entre eux, plus que jamais. Le clivage gros-petit qui avait été théorisé par le politiste Pierre Birnbaum dans son livre « Le peuple contre les gros » fonctionne très fortement chez les Français. Maintenant, on va voir comment l'affaire va progresser. Est-ce qu'on va sortir du languisme pour aller sur un truc global ?
Alors justement, je voudrais juste une question, Marie Pelletier, avant de retourner au standard. On parlait tout à l'heure de quelque chose qui abîme la démocratie. On ne regrette évidemment pas la transparence. On peut regretter la manière dont ces documents ont été divulgués par un énorme paquet. Mais du coup, la question que je me posais, c'est quand même, quand on en arrive à ce degré-là, y compris quand même d'une transparence, même si peut-être elle est mal faite, est-ce que c'est le signe d'une société qui va très mal ou une société qui va bien ? J'ai du mal à trancher sur cette question.
La question de la transparence, c'est une question complexe, parce que quand il n'y a pas assez de transparence en démocratie, c'est un problème. Et effectivement, on le voit aussi ici, quand il y a trop de transparence, ou en tout cas quand les informations ne sont pas traitées, parce qu'en fait, c'est ça auquel on fait face actuellement.
Exactement.
C'est une masse d'informations
c'est pas fini,
qui n'est pas analysée.
On attend la même chose derrière.
Oui, exactement. Et avec effectivement un contexte politique, enfin, on vient de le rappeler, hein, un contexte politique qui est déjà à la confusion, à la montée de l'extrême droite, etc. Donc c'est-à-dire qu'on a déjà tous les ingrédients en amont, ça je pense qu'il faut vraiment bien le dire, on a déjà tous les ingrédients quelque part d'une rupture de confiance très très forte à l'égard des gouvernements démocratiques. Et donc moi évidemment ma grande crainte, c'est que cette masse de documents servent à toutes sortes d'idéologues d'extrême droite essentiellement pour acter, pour continuer cette rupture et pour finalement prendre le pouvoir un peu partout dans la démocratie occidentale. C'est quand même ça la menace. Il y a déjà la première démocratie occidentale, à savoir les États-Unis, qui est aux mains de l'extrême droite, mais ça guette aussi toutes les autres démocraties occidentales. Et cette masse d'informations, cette over-transparence, si on peut dire ça comme ça, risque quand même d'être un matériau à cette fin.
On y reviendra bien sûr là-dessus. Je voudrais qu'on écoute Lionel d'abord. Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
On vous écoute Lionel.
Merci d'abord pour vos émissions et puis surtout l'élégance avec laquelle vous menez les débats. Je crois que c'est un mot qui tombe bien ce soir. J'ai une
merci,
double
Lionel.
Réflexion. Pardon.
Allez-y, j'ai dit merci. Merci Lionel. On vous écoute.
J'ai une double réflexion. La première, c'est une intuition, puisque je ne fais pas partie de ces gens-là. J'ai l'impression que les sphères, qu'elles soient artistiques, politiques, de l'industrie, ou enfin toutes les sphères de pouvoir, médiatiques, les gens qui en font partie, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment le besoin d'en être, c'est-à-dire d'être d'un réseau, de faire partie, et d'être là, là où ça se passe, comme ça s'est toujours fait, mais je pense que ça s'accélère énormément. D'abord avec l'accélération des flux financiers, la rapidité avec laquelle on peut faire des fortunes. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a des gens qui font ça sans aucun discernement. Et parmi eux, je pense qu'il y a des gens qui sont naïfs. Je pense que dans tous les gens là qui vont être nommés et révélés, il y aura parmi eux des gens naïfs. Non pas que je veuille les absoudre, mais je pense qu'il y a un besoin d'être des réseaux. Et par là, aller s'aventurer dans des choses qui sont tout à fait déplorables. Ma deuxième remarque qui me paraît plus qui est moins de l'ordre du ressenti, mais je pense de la réalité, c'est que le déballage avec lequel c'est fait sans aucune modalité, sans aucune prévenance, où on jette tout comme ça, va faire évidemment les fous gras des sphères les plus immondes, mais surtout va quelque part Donald Trump va se retrouver comme parmi tous ces gens-là, et sa réputation du coup, enfin tout ce qui était grave dans ce qu'il a fait se retrouve complètement dilué, dissous, et finalement quelque part ça le blanchit parce que ça devient anecdotique.
Merci pour cette remarque, Lionel. Est-ce que ça devient anecdotique, Olivier Burtin? Est-ce que c'est pas même la stratégie, le fameux, mais le truc de Bannon, c'était...
Flotte de zone.
Exactement, flotte de zone. Donc inonder la zone, ça on peut dire que la zone est inondée. Et c'est quand même fascinant. Avec eux-mêmes, encore une fois, parce que Bannon est dedans. Dans le Wall Street Journal, il raconte par exemple qu'il fait partie de ces gens qui, quand Epstein se retrouve en prison, lui envoie un message en disant mon pauvre, si je peux t'aider. Enfin, donc il est vraiment dedans.
Oui, et je crois que c'est ce qui sauve Trump, entre guillemets, c'est que l'opinion que se font les Américains de lui est depuis très longtemps très basse, en fait, et qu'on apprend, vraiment rien de nouveau sur son caractère qu'on ne savait pas déjà. Et ça ne semble pas, même si aujourd'hui Trump est au plus bas dans les sondages, on parle quand même toujours de plus d'environ 30% d'Américains qui sont derrière lui. Donc on est quand même loin des profondeurs qu'on a pu constater dans la politique française avec certains présidents qui ont fait bien moins que ça. Donc ça, voilà.
Ce que disait notre auditeur, cette histoire nous raconte comment les gens ont envie d'en être. Mais en l'écoutant, je me suis dit, c'est exactement l'histoire de Trump par ailleurs aussi. Enfin, le début de la carrière de Trump, c'est exactement ça. Il faut en être, il faut avoir la carte, c'est ça que ça dit.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Trump et Epstein étaient amis tout au long des années, fin des années 80, début des années 90. Et ils se sont séparés, on pense. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore véritablement de preuves. Principalement à cause d'une affaire de domestique dans le club de Trump à Mar-a-Lago. Mais évidemment, Trump est impliqué, même s'il n'y a pas de preuves qu'il ait eu recours au service d'Epstein, il y a quand même des indices assez concordants.
Oui, ce qu'il sauve quand même, c'est que Frédéric, je suis moins spécialiste du sujet que vous, mais il y a des photos, des messages avec Bill Clinton, et ça peut donner une impression du fait que tout le monde est touché, ce qui peut sauver Trump. Et n'oublions pas, aux États-Unis comme en France, c'est très vrai en France, les Français, on peut le regretter, écoutent moins le discours du « tous pourris » que du discours du « tous impuissants ». Tous impuissants à changer ma vie, tous impuissants à régler les problèmes, et avec ce que l'on voit, bah oui, ils sont très impuissants parce qu'ils ne s'intéressent pas à nous, ils sont entre eux, ils sont dans une logique d'impunité, bon, d'entre-soi, ça a été dit, j'aime beaucoup votre expression de wouzou délirant, le wouzou, c'est 50 000 noms en France, je crois, même moins, 98% des Français n'y sont pas. Donc ça va aussi alimenter cette distance qui vraiment n'est jamais vue, n'a jamais été vu depuis la dissolution, depuis cette crise politique et parlementaire d'un politique qui ne peut plus rien pour nous. Donc on n'a même plus besoin de le regarder, c'est plus là que ça se passe.
Avant de retourner au standard, juste un mot, Marie Pelletier, est-ce que... j'essaie de trouver un peu de positif dans cette histoire, en fait. Et donc, je me demande si elle dénoue quand même des choses, et que désormais, y compris tous ces gens qui se croisent probablement à Davos vont finir par faire attention à deux, trois autres choses, ou est-ce que je rêve debout. L'inverse, c'est que cette histoire vienne s'additionner à toutes ces espèces de matrice du genre le 11 septembre a été fomenté par la CIA, JFK a été assassiné par je ne sais qui, etc. Votre balance, ne me faites pas peur, Marie Pelletier, penche de quel côté ?
Oh, moi, je suis une grande optimiste. Hein. Donc, je pense très important, en tout cas, de nourrir l'espoir en termes politiques. Et donc, forcément, je suis comme vous. Je mise, en quelque sorte, sur le fait que certaines révélations, au moins, effraient un petit peu certaines personnes qui se pensaient tout permis. Je pense que ça. Et puis, je pense aussi que ça peut peut-être permettre à certains citoyens d'avoir le sentiment, même si c'est un sentiment, d'être un peu plus informés, c'est-à-dire d'avoir un peu plus accès à l'information. Donc, je pense que dans l'absolu, il peut y avoir des choses positives. Cela dit, c'est pas pour faire retomber la chose, mais ça s'inscrit quand même effectivement dans une séquence que moi je fais remonter surtout au 11 septembre 2001. C'est cette séquence finalement de où les démocraties occidentales ont commencé à connaître une très grande fragilisation à la fois à l'interne et à l'externe, on pourrait dire ça comme ça, et surtout cette fragilisation a été exploitée par les acteurs antidémocratiques, par l'extrême droite, par les acteurs pro-dictature, etc. C'est-à-dire que malheureusement, la propagande antidémocratique, elle s'est déjà bien installée au sein de nos démocraties, et évidemment qu'il est à craindre, et c'est ce qu'on observe aujourd'hui, que toutes ces révélations en cascade ne servent cette propagande au final, c'est-à-dire servent quand même une narration qui dit que la démocratie est un leurre, est une arnaque, qu'on ne peut pas lui faire confiance. Et ça, évidemment, c'est pas... ça temporise un peu mon optimisme, on va dire.
Et pour rebondir là-dessus, Olivier Burtin, au fond, ça nous ramène à ces discours des géants de la tech, des Peter Thiel, etc. La démocratie, désormais, c'est surfait, et de toute façon, entre démocratie et liberté, choisissons liberté. Au fond, ça, est-ce que ça apporte, selon vous, du moulin de l'huile à ce moulin-là aussi, ce genre d'affaires ?
Oui, je pense. Après, je pense qu'on peut à la fois avoir des révélations qui sont utiles au bien public, dans le sens où il y a quand même eu des révélations de personnes qui ont menti publiquement.
Je suis d'accord. Il y a des révélations temps, et il y a une justice qui passe aussi. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas juste.
Alors malheureusement, la justice dans le cas d'Epstein.
Alors il s'est suicidé. Pas...
Oui, bien sûr, mais je parle aussi des personnes qui ont été complices avec lui, etc. Par exemple, Howard Lutnick, qui est un des ministres de Trump, a menti ouvertement par rapport à ses liens avec Epstein, pour l'instant sans aucune conséquence.
On verra effectivement quelles conséquences il peut y avoir derrière. On est en train de parler de cette affaire Epstein. Au téléphone sonne ce soir avec Olivier Burtin, que vous venez d'entendre, qui est maître de conférence en civilisation des États-Unis à l'université Picardie-Jules Verne, avec Frédéric Dabi, qui est directeur général de l'IFOP, avec Marie Pelletier, qui est historienne et spécialiste du complotisme.
Le 18-20, 01 45 24 7000.
Et on est aussi avec vous, François. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le bienvenu, François.
Enchanté. Et je voudrais commencer par rebondir sur ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça n'apporterait pas de l'eau au moulin de gens comme Peter Thiel ? Mais il me semble que c'est exactement le contraire. Parce que qu'est-ce que ça montre, tout ça ? Ça montre non pas un excès de contrôle démocratique, mais une insuffisance de contrôle démocratique. Donc tous ces gens qui se disent libertariens pour la liberté à outrance, etc. En fait, ce sont les marchepieds, ce sont les faire-valoir de ces excès, le fait apparaître l'affaire Epstein, de deuxième volet, il y a quand même un éléphant dans la pièce. C'est le pognon. C'est le fric. Où ces gens, ils croulent sous le fric. Tous leurs excès sexuels et autres qui sont dévoilés là. Mais bon sang de bonsoir, mais c'est de l'argent. C'est de l'argent. On n'a pas réussi à prélever, par exemple, avec la taxe Zuckman en France, qui pourrait servir à des gens qui en ont vraiment besoin. Et que ces gens-là claquent dans leurs orgies, dans leurs... Bon, d'accord. Et à la limite, si tout ça, en dehors de l'aspect moral, bon, de dévoiement de personnes et tout, ça coûtait rien au reste de la société, ce serait beaucoup moins grave. Mais le problème essentiel, c'est que c'est de l'argent sur la richesse produite socialement et qui ne va pas aux gens à qui ça devrait en priorité, mais qui est claqué en jet privé, claqué en yacht. Ça m'arrive de me promener quelquefois au port de Nice ou ailleurs.
J'ai bien compris que les yachts n'étaient pas les vôtres, François, ceux qui sont sur le port.
Oui, je pense que c'est pas les vôtres non plus.
Ouais, François. non plus. Merci beaucoup pour votre question, votre remarque, en tout cas, François. Alors, il a raison, bien sûr. Il y a l'argent, mais moi, j'ai l'impression que il y a plein d'autres arguments. Marie Pelletier, vous allez m'aider avec ça. J'ai l'impression que tous les espèces de mots-clés, en fait, liés à ce petit monde-là, et à ces choses qui sont matinées de complotisme ou pas, il y a l'argent, il y a le mot juif qui revient, il y a la pédocriminalité, il y a cette espèce de d'élite mondiale complice. Enfin, on a l'impression que dans cette affaire, toutes les cases, où qu'on regarde et qui qu'on soit, toutes les cases sont cochées, en fait.
Ah oui, complètement. Je peux vous dire que moi qui travaille sur le conspirationnisme depuis des années, je corresponds depuis des années avec des conspirationnistes, ça a toujours été le cas. Bah, depuis plusieurs jours, ils m'écrivent en disant, vous voyez bien qu'on avait raison depuis le début. Donc, c'est un peu embêtant, évidemment, et ça oblige à une certaine posture d'humilité. Je vais pas non plus directement leur dire, non, ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Alors qu'effectivement, dans cette histoire, il y a en fait des éléments factuels qui semble, j'ai dit bien sembler, hein, corroborer la narration conspirationniste. Mais une des choses qui me semble importante pour sortir de cet écueil, c'est de remettre les victimes au centre aussi. Mm-hmm. Je pense que c'est très important parce que le conspirationnisme, comme en fait un petit peu aussi l'anticonspirationnisme actuel, oublie que en fait le narratif démocratique, enfin le récit démocratique, il est quand même un récit de défense des plus faibles normalement. C'est-à-dire, on a parlé de la question de la richesse d'ailleurs, une attention particulière normalement qui devrait être portée en démocratie, en tout cas c'est ma vision de la démocratie, hein, aux personnes les moins aisées et aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Rappelons quand même que c'est aussi un scandale de violences sexistes et sexuelles. Et donc, je pense que c'est quand même une manière de désavouer en quelque sorte la narration complotiste qui n'est pas très intéressée par les victimes de manière générale et de remettre au centre justement la lutte démocratique. Il me semble que c'est une des manières les plus cohérentes politiquement de se servir, entre guillemets, de cette histoire pour essayer d'en faire une plus-value pour nos sociétés.
C'est vrai,
je dis pas que c'est facile.
Mais je pense à l'avenir et à la prochaine, hein, pardon, qui sortira parce que il y aura bien des affaires suivantes de ce genre-là. Et j'entends bien cette espèce de gimmick qu'on entend tout le temps, Marie Pelletier. Ah bah, de toute façon, il y a toujours un fond de vérité. Fermez les guillemets. Et là, on a l'impression que Epstein fournit ce fond de vérité, en fait.
Mais oui, mais en fait, c'est, pour le dire de manière un peu choquante, oui, il y a un fond de vérité dans le conspirationnisme, dans le sens que dans le sentiment d'injustice qui peut être vécu, dans le fait qu'il y a des inégalités sociales et économiques, etc., bien évidemment que tout ça, ce sont des réalités. Le problème du conspirationnisme, c'est qu'il postule qu'il y a un petit groupe malfaisant, et c'est très lié évidemment à l'histoire de l'antisémitisme, hein, qui tirerait toutes les ficelles. En fait, l'affaire Epstein ne montre pas qu'il y a un petit groupe malfaisant qui tire toutes les ficelles. C'est pas ça que cette affaire montre. Ce qu'elle montre, c'est qu'effectivement, quand des gens ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'argent, dans un système capitaliste, parce que les démocraties sont aussi des systèmes capitalistes, elles ont, enfin, ça a été très bien dit par l'auditeur, ces personnes ont tendance à contourner en quelque sorte les règles démocratiques et donc à échapper au contrôle démocratique. Et je trouvais ça très juste d'entendre tout à l'heure qu'en fait, ça nous dit aussi que quelque part, il faudrait remettre plus de contrôle démocratique, paradoxalement. C'est peut-être une manière de justement de trouver une issue politique qui ne soit plus conspirationnisme, mais qui ne soit pas non plus une minimisation des actes qui ont été commis.
Olivier Burtin, c'est une question pour vous, celle de Pierre. Une remarque, en tout cas, sur WhatsApp, qui dit pendant 10 ans, le département Department of Justice n'a rien fait de ces millions de documents. Aucun magistrat ne les a analysés. Le scandale n'est pas dans le déballage, mais dans l'étouffement ces 10 années précédentes entre l'arrivée de Trump au pouvoir et aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de gens qui demandent à l'inverse, mais pourquoi est-ce que Trump a demandé à les ouvrir ?
Parce qu'il y avait intérêt à l'époque, et sans doute parce qu'il sous-estimait l'importance que cette thématique avait pour sa base électorale. C'est-à-dire que ça avait tout un avantage pour lui lorsqu'il était en campagne pour revenir à la Maison Blanche. Maintenant qu'il y est et que son intérêt réside dans la tentative de justement créer une coalition cohérente et unie derrière lui, ça lui pose beaucoup de problèmes.
Voilà. Mais parce qu'il imaginait aussi qu'il pouvait tuer quelqu'un sur la 5e avenue sans être inquiété, comme il l'avait dit en 2016. Je pense qu'il pensait être plus fort que ses dossiers.
Mais encore une fois, il n'a pas forcément tort, dans le sens où, d'une part, la Cour suprême a déclaré qu'il était immunisé, et en plus, sa popularité n'est pas si basse que ça.
Pour revenir à la question de Pierre sur les 10 ans au cours desquels le département de la justice américaine finalement n'a pas été les chercher, ces dossiers-là.
C'est parce qu'en fait, la révélation véritablement, en tout cas le travail de terrain qui a véritablement fait réémerger l'affaire Epstein, c'est d'abord un journal en Floride, le Miami Herald, qui l'a fait. Et à l'époque, pour résumer très rapidement, tous les torts et tous les actes pour lesquels Epstein avait été condamné, ils avaient eu lieu dans les années 80, 90 et 2000. Il a été condamné en 2008. Il a plaidé coupable avec un accord très favorable qui lui a donné le département de la justice américain, qui est resté secret et qui a été révélé par le travail d'une journaliste de ce journal-là en 2018. Donc c'est là où c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que les complotistes se servent du travail de journalistes de terrain sérieux qui, comme on l'a dit avant, va à l'encontre de l'idée d'un complot dirigé par des élites unies.
Et c'est le principe du comploteur, comploté, enfin tout ça tourne vraiment en rond quand on voit Donald Trump aujourd'hui qui dit que toute cette histoire, il faut même tourner la page, c'est ce qu'il a dit en fin de semaine dernière, et qu'en réalité c'est un complot contre moi. Vraiment, on a l'impression que le diable se mord la queue, et c'est bien ce que veulent de toute façon ces gens-là, hein, Frédéric Tabie, que le diable se morde la queue. Vous croyez que ça arrive jusqu'à nous, ça, ou pas ?
Oui, je pense que ça arrive jusqu'à nous pour les raisons évoquées tout à l'heure. L'intérêt croissant, la fascination pour Trump, la fascination pour les États-Unis qui ne sont plus notre allié mais notre ennemi pour beaucoup de Français, cet intérêt pour les questions internationales, et puis je le dis très directement, on va rentrer en campagne présidentielle. On sait très bien qu'il y a dans cette campagne qui va être beaucoup plus globale que par le passé, cette affaire peut être un carburant formidable pour la droite extrême, pour un candidat Bardella. Je le dis aussi pour un candidat Jean-Luc Mélenchon. Comme a dit très bien tout à l'heure François, c'est une affaire de pognon, d'obsession pour l'argent. J'entends François Mitterrand qui parlait d'argent qui corrompt au moment de sa campagne de 74, si je ne me trompe pas. Ça va être exploité d'un côté en disant, bah, vous avez bien vu ce qui se passe quand on dénonce les ultra-riches, les actionnaires qui se gavent, les multinationales. C'est un système du côté d'une candidature Mélenchon. Et du côté de Jordan Bardella, il peut très bien avoir. Les Français s'appauvrissent, c'est d'autres personnes qui en profitent, l'immigré d'une manière générale. Donc on ne peut, je suis absolument persuadé. Alors en plus, on se parle ce soir, l'enquête ne va pas cesser de feuilletonner. Vous disiez tout à l'heure qu'on attendait des nouvelles révélations. C'est ça qui a changé, une opinion qui s'est beaucoup plus globalisée. Et l'époque où les campagnes présidentielles étaient des moments où on fermait le pays, on fermait les écoutilles pour voir le pays se célébrer et voir des candidats qui regardaient la France au fond des yeux, c'est terminé. Toute affaire internationale va avoir un impact.
Voici Jean qui est avec nous, ou Jean-Daniel peut-être.
Oui.
Allô, bonsoir. Vous êtes le bienvenu.
Oui, allô, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, bonsoir à tous. Je voulais réagir sur la manière de présenter le sujet qui, justement, à mon sens, est problématique. Parce que vous intéressez pas au fond. Et ça risque de faire monter les oppositions politiques. Est-ce que ça ne reproduit pas l'entre-soi que vous dénoncez du bout des lèvres, d'automatiquement dire « mais cette affaire, c'est un problème, ça va favoriser nos opposants politiques
». Moi, je ne parle pas de mes opposants politiques, hein, si je puis me permettre, Jean.
Mais, écoutez, c'est ce qu'on entend. Bah, la première chose, comme l'a dit l'intervenante qui est la dernière, ce serait de reconnaître d'abord la véracité qui réside dans ce dossier Epstein, même si elle est partielle, de reconnaître
à tous ces gens qui ont fait le travail d'avoir un peu d'humilité et moins d'impunité. Et je pense que les gens entendent sur France Inter souvent ce discours qui consiste à dire l'affaire Epstein, c'est dramatique parce que ça fait monter le complotisme. Mais elle n'est pas dramatique pour ça, l'affaire Epstein. Elle est dramatique parce qu'il y a un fond. Qu'en pensez-vous ?
Alors, si c'est à moi que vous posez la question, je n'en pense rien. Mais est-ce que l'idée qu'il y a un fond et qu'il y a une affaire dans cette affaire, et notamment une histoire de pédocriminalité, là-dessus, on est bien d'accord, Marie Pelletier, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a une vraie affaire à l'intérieur de cette affaire. C'est pas que du vent et pas qu'une histoire de milliardaire.
Oui, oui, complètement. Et je comprends ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a quelque chose d'assez juste dans ce réflexe médiatique de manière générale, hein. À directement sauter sur la question de la lutte contre le complotisme, avant peut-être de prendre la mesure de, évidemment, à la fois du scandale de cette affaire, mais aussi de l'impact qu'il peut avoir sur les citoyens. Je pense qu'effectivement, ça peut donner l'impression que c'est un entre-soi qui protège un entre-soi. Je comprends en tout cas le sentiment. Et c'est pour ça que moi, j'ai plutôt de l'empathie envers les journalistes, parce que je pense que le fil à tenir n'est pas évident dans cette affaire. C'est-à-dire à la fois traiter sérieusement des faits qui sont révélés, en quelque sorte, considérer vraiment les victimes, et en même temps, effectivement, de donner des balises pour ne pas sombrer dans des lectures conspirationnistes et antidémocratiques. Mm-hmm. C'est vraiment un fil du rasoir qui n'est pas facile à tenir.
Et c'est surtout une masse. Est-ce que chez vous, par exemple, à l'IFOP, Frédéric Dabi, quelqu'un se plonge dans cette masse-là? Parce que s'il y a un impact sur la société, qu'elle infuse dans la société, il faudra bien savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on fait de cette masse?
Bien sûr, on peut l'analyser via une analyse de contenu, via de l'intelligence artificielle. Je voudrais quand même un petit peu nuancer ce que je viens d'entendre. Il y a quand même eu MeToo qui est passé, je trouve. Et si on est hexagonal, j'ai envie de dire... Rappelez-vous, c'était il y a 20 ans, ou trop. Les victimes, la place des victimes dans le regard des Français a pris une place de plus en plus importante. Quand on demandait aux Français, il y a plus de 20 ans, c'est quoi la mission prioritaire de la justice? Rendre hommage et justice aux victimes, arriver en dernière position. Maintenant, on est juste derrière la sanction des coupables. Je pense que MeToo a fait beaucoup, avec en plus... De ce point de vue-là, pardon, pour ce thème, une sorte de feuilletonnage. Les premières affaires MeToo, puis MeToo gay, MeToo dans le monde de l'économie, MeToo dans le monde du cinéma. Et c'est vrai que cette affaire aussi Epstein, je crois qu'il y a beaucoup de personnalités du monde artistique. Je ne pense pas que... Il n'y a pas encore d'enquête, donc je vais pas anticiper. Mais l'appréhension des Français passera d'abord par... une forme de commisération et de sympathie vis-à-vis des victimes et de la pédocriminalité, des sujets sur lesquels les Français sont absolument impitoyables.
Mmh. Mais les États-Unis aussi, non, Olivier Burtin, parce que Dieu sait qu'il y en a eu des scandales de pédocriminalité.
Oui, absolument.
Il y a quand même aussi, au moment où on se parle, une espèce de dégoût américain aussi de tout ce qu'on voit et de cette espèce d'impunité, ou rassurez-moi plutôt.
Il y a un dégoût qui malheureusement est tempéré par par l'hyper-polarisation aux États-Unis. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'Américains qui considèrent d'abord et avant tout que Trump est leur président, le président conservateur républicain, et qu'ils sont prêts à presque tout lui pardonner pour s'assurer de maintenir le contrôle de la Maison-Blanche. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, ce débat est vraiment filtré à travers cette lentille partisane qui rend difficile l'établissement d'un consensus au-delà même de ces divisions aux États-Unis.
Il y a une dernière remarque que je voudrais vous soumettre, Marie Pelletier, c'est celle de Bruno qui dit, mais je vois pas pourquoi tout le monde s'étonne de l'affaire Epstein, ces histoires de sexe, d'argent ont toujours eu lieu dans ces sphères de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de remarque?
Oui, ça c'est effectivement des réflexions qu'on peut entendre et qui sont quand même, qui participent d'une minimisation, parce que c'est pas parce que ça a toujours existé que c'est pas grave. On pourrait dire que les viols, par exemple, ont toujours existé et ça reste tout à fait scandaleux pour autant. Donc je pense qu'il faut faire vraiment attention à ce réflexe que certains ont. Parce que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la question du statut des victimes dans nos sociétés. Oui, certes, il y a eu MeToo, mais on est en plein backlash là, anti-MeToo. On est en pleine vague masculiniste, on est en plein déni des VSS. Je peux vous dire qu'en tant que femme, je peux vous le dire. Je le vis et je l'observe. Et donc, il y a vraiment à remettre quand même au centre quelle est l'injustice et pourquoi on se bat en démocratie. Donc, je pense que on peut pas utiliser l'argument de quelque chose a toujours existé, donc on ne doit pas s'en indigner. Il y a beaucoup de choses qui ont existé par le passé et que les mouvements sociaux ont changé et que la politique a changé, que les luttes sociales ont changé, et je pense qu'il faut remettre ça au centre de la lutte démocratique, quoi, tout simplement.
On a cette remarque de Romain qui dit « On parle beaucoup de complotisme et des risques posés par celui-ci. Le meilleur moyen d'éviter le complotisme n'est-il pas de faire un travail fouillé de journaliste pour porter à la connaissance de ce dossier, ses réseaux et les faits ?» C'est ce que chacun essaye de faire dans cette immense masse, mais dans la presse américaine comme ailleurs, débordée aussi par les 3 millions de plus dont on sait qu'ils arriveront, Olivier Burtin. C'est ça aussi la stratégie, hein, encore une fois.
Oui, c'est ça, mais ne pas oublier quand même ce dont on avait parlé juste avant, c'est-à-dire que c'est aussi des journalistes qui, en faisant le travail de terrain, en allant au-delà simplement du répertoire des emails, etc., ont pu montrer tout ce qu'il y avait vraiment au fond de l'affaire.
Est-ce qu'on sait d'ailleurs si ce qu'on voit là, ce sont des emails parce que, sachant très bien que il aurait des services à demander, il gardait tout, ou est-ce qu'on fouille aussi ce qu'il ne comptait pas garder? C'est pour ça qu'il y a cette très grosse masse. On a cette réponse ou pas?
Non, on a, c'est vraiment le brouillard, en fait. On ne sait pas.
Bah écoutez, on a essayé de surnager dans ce brouillard. On y reviendra. Je vous remercie chaleureusement tous les trois, vraiment, et vous tous pour vos nombreuses questions.